Bonsoir et bienvenue dans Absence, l'émission qui parle de création contemporaine sur Radio Campus Paris. Ce soir, on accueille la compositrice Julia Lorusso, compositrice donc et pédagogue. Elle a étudié le piano et la composition au Conservatoire de Milan, puis au CNSM de Paris et à l'IRCAM. Sa musique a été jouée par le Quatuor Tana, le Quatuor Diotima, l'ensemble de The Deuxième, le Divertimento Ensemble, l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles et les solistes de l'ensemble intercontemporain, et j'en passe. Elle a été programmée dans de nombreux festivals, comme le festival Ferenc Suona Contemporanea, et a été jouée à Berlin, à Rome, à Donaueschingen ou encore à Paris. Elle sera la compositrice en résidence de la Villa Médicis l'an prochain. Bonsoir Julia.
Bonsoir.
On est aussi avec Mickaël, qui nous fera une chronique un peu plus tard dans l'émission.
Salut.
Et avec Marie-Lou et Ange à la technique, qu'on remercie. Et on va tout de suite écouter une première pièce de Julia Lorusso, composée en 2020, qui s'appelle Unspoken pour guitare électrique et interprétée par Ruben Mattia Santorsa.
Thank you.
C'était donc Unspoken de Giulia Lorusso, interprété par Ruben Mattia Santorsa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la pièce? Qu'est-ce qui a motivé un peu ton écriture? Comment ça s'est passé? Parce qu'elle a une création spéciale, on discutait de ça il y a deux minutes.
Oui, alors cette pièce, je crois que c'est la deuxième pièce pour guitare électrique que j'ai écrite et qui a été écrite à un moment particulier parce que c'était ce moment où on sortait du premier lockdown. Oui. Lié au Covid. Et il y avait des concerts, mais de temps en temps, ils étaient interdits, c'était pas sûr. Et donc, cette pièce m'a été commandée pour un concert streaming.
Ok.
De la part d'un ensemble basé à Manchester, qui est un guitariste, Daniel Bru, qui a créé la pièce. Et que j'ai écrite cette pièce, effectivement, dans ma chambre, oui. En essayant avec... Je suis pas du tout guitariste, moi, mais j'avais une guitare électrique. Et en essayant, en enregistrant des sons de boucles. Et du coup, cette idée des boucles a été finalement la base de la pièce. Donc, il y a plusieurs couches qui se superposent et qui créent cette sorte de fond sonore. Il y a un fond sonore, plusieurs plans sonores dans lesquels il y a des résonances de cloches. Donc c'est une pièce très méditative, comme on a pu écouter, qui résume un peu des choses, des attitudes que j'aime dans la musique, dans la composition, c'est-à-dire cette recherche de la résonance, de créer ces espaces dans lesquels le son peut se déployer, de l'harmonie aussi, de la consonance. Il y a des harmonies qui apparaissent cristallins et de cette profondeur aussi, de pouvoir créer plusieurs couches, plusieurs plans sur un seul instrument. Et voilà, le titre, Unspoken, dit aussi quelque chose, c'est-à-dire c'est Unspoken, c'est non dit. Oui. C'est, donc pour moi, cette pièce, c'était... un peu l'emblème de le son qui parfois exprime des choses qu'on peut pas, on n'arrive pas ou on ne peut pas exprimer à parole. Il n'y a pas forcément besoin de mettre un mot, une interprétation au son qui s'explique tout seul. Voilà, donc c'est une petite pièce. Je la considère comme une étude, mais c'est une pièce que j'aime.
C'est super. Et est-ce que justement c'est d'abord l'idée, toutes les idées dont tu nous as parlé qui sont arrivées en premier, ou est-ce que c'est d'abord l'idée musicale? Comment ça marche ton processus de composition? Par quoi tu commences? Comment ça s'organise?
Ah, c'est très désordonné, c'est un chaos. C'est vraiment, pour moi, la composition, la création, c'est l'ordre dans le chaos qui se fait petit à petit. Et c'est un peu comme, si je devais donner une image, c'est un peu comme être à mer, dans la mer ouverte, ne voir rien, aucun repère. Pas de terre, pas de... Et puis, de temps en temps, il y a des étoiles. On essaye de suivre un chemin, de faire des hypothèses. C'est un peu comme la navigation à l'ancienne. Okay. Moi qui ai la mal de mer en plus, mais que j'adorerais vraiment faire le tour du monde en bateau à voile. Et que j'ai pas de permis, hein, de même. Mais voilà, c'est un peu ça. Puis, on commence à voir quelque chose qui ressemble à la terre, on se rapproche et voilà, on arrive, on découvre quelque chose. C'est vraiment ça la composition. Donc parfois ça commence par un son, parfois ça commence par une idée, par une image. Là, je pense que ça a commencé justement par ce son de hibo. Le hibo, c'est un petit dispositif qui les amateurs de rock le connaissent parce que ça permet de faire de jolis sons sur la guitare électrique, des sons tenus et pas pits. Et que ça a commencé par ça, par cette boucle un peu... Qui est là, qui reste, et des choses qui sont construites au-dessus.
Ok. Et tu nous disais que tu n'es pas guitariste, mais que tu n'avais pas de guitariste non plus sous la main. Est-ce que d'habitude, tu travailles plutôt avec les interprètes pour construire quelque chose? En plus, on sent qu'il y a une recherche sur un peu les modes de jeu. Tu as parlé du hibo. Est-ce que c'est quelque chose que d'habitude, tu aimes développer en collaboration un peu avec les interprètes? Est-ce que là, ça t'a manqué? Comment ça s'est organisé?
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup travailler en général avec les autres musiciens, que ce soit des compositeurs, des collègues, compositeurs, compositrices, des musiciens, des interprètes. Et quand je commence une pièce, si je peux travailler avec les interprètes, si je peux mettre un visage à la pièce que j'écris, c'est très bien, c'est mieux. Et ça se complète aussi par un travail intime qui est déterminée aussi par mes limites, parce que comme, je ne peux pas tout jouer.
Oui.
Donc, il faut trouver un peu un compromis entre ce qu'on peut, on peut explorer avec des interprètes.
Mmh.
Et après, s'en approprier et aussi, à la limite, rechercher soi-même des sons. Et c'est un peu les deux. Je pense que dans cette pièce qui a joué beaucoup, c'est vraiment l'intimité et qui passe dans la pièce, c'est l'intimité d'une composition faite dans, vraiment dans ma chambre de l'époque,
oui.
Dans un moment où on ne sortait pas beaucoup parce que, voilà, et ça, je pense que ça passe dans la pièce, cette côté intime, vraiment, cette sorte d'enfermement aussi.
Ok. Et est-ce que c'est quand même quelque chose qui passe bien aussi en concert? Tu as pu la jouer, oui, en live depuis?
Oui, oui, c'est joué en live. L'interprète de l'enregistrement qu'on a écouté, Ruben Mathias Santos, ça l'a joué beaucoup. L'a enregistré dans un vinyle qui va sortir. Et voilà, donc c'est une pièce qui fait sa vie aujourd'hui et qui passe de plusieurs mains. Et c'est très bien.
Ok. Et toutes ces sonorités, le travail un peu sur le timbre spécifique de l'instrument, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire dans plusieurs pièces? Où est-ce que tu trouves tes inspirations pour ça? Comment ça se passe?
Alors, le timbre, je me faisais la réflexion en venant ici que les pièces qu'on va écouter ce soir, que je proposais, c'est deux pièces solo.
Oui.
Bah, guitare électrique, il y a un instrument solo, mais c'est un instrument un peu particulier, c'est un instrument hybride, parce qu'à la base, la guitare, c'est acoustique. Quand on rajoute l'électricité, déjà, on modifie les timbres, mais aussi la durée du son. Et en plus, à la guitare électrique, souvent, on n'est pas toute seule. Il y a tout un appareil de pédales, d'effets. Et donc, écrire pour guitare électrique, c'est tout d'abord décider, construire son propre instrument. Et le guitariste qui fait, il construit son set, il construit son son. Mmh. Donc déjà, le son de chaque guitariste électrique est différent. Et l'autre pièce qu'on écoutera, c'est, bon, je ne vais pas l'anticiper, mais c'est pour piano électronique. Et puis, il y a une pièce pour quatuor à cordes électronique. Donc, c'est cette unité des timbres, cette sorte de uniformité de timbre, de cohérence, c'est quelque chose qui est très présente dans mon répertoire, dans ma musique.
Mmh.
Je pense que j'aime bien écrire pour un timbre qui est cohérent, pour justement travailler travailler plutôt dans la profondeur de ce qu'on peut faire avec un seul timbre. C'est-à-dire, on peut vraiment faire chanter, je dirais, un instrument, là c'est toute mon italianité qui sort, bel canto, mais faire voilà, un peu explorer ces territoires. Un instrument, c'est un territoire, vraiment, je reviens un peu en métaphore spatiale comme tout à l'heure, un peu comme la composition, c'est vraiment explorer un territoire, aller dans les coins, à voir ce qu'il y a et ce qu'on peut faire. Et ce qu'il y a d'expressif là-dedans, surtout, parce que ce n'est pas juste le goût d'aller chercher les sons bizarres chez moi. Enfin, j'essaye, au moins. Mais ça doit avoir du sens.
Ok.
Et moi, j'ai peut-être une question. Concrètement, du coup, sur scène, le guitariste, donc, il utilise des pédales de boucle, etc. Le setup est construit comme ça, enfin...
Il y a du freeze aussi, il y a de la distorsion, okay. Il y a du pitch shift.
Mais rien n'est préenregistré, donc.
Non, c'est, okay. Ça, c'est
ouais,
une pièce
tout en,
là.
Tout en live, ok.
Ouais, il y a beaucoup d'activités de pied, là.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est un organiste.
Ouais. Ok, et ben on va écouter donc la deuxième pièce à laquelle tu faisais allusion, qui s'appelle Entrouvert pour piano et électronique, qui a été composée donc par Julia LoRusso en 2017 et qui est interprétée là par Chae-Woom Kim. C'était Entrouvert pour piano et électronique. Et justement, l'électronique, c'est des transducteurs dans le piano. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et comment tu t'en es servi?
Oui, voilà. Donc, dans cette pièce, l'électronique est diffusée à l'intérieur de l'instrument et non pas par des haut-parleurs comme habituellement, et par des dispositifs qui s'appellent transducteurs, qui sont qu'on trouve même dans les automobiles, dans les voitures, voilà, okay. c'est ce que et qui donc appuie sur la table harmonique du piano. Mmh. Et donc, se servent du piano comme caisse de résonance. Donc, ils diffusent sur une surface le son. Et le piano, la table harmonique du piano, bien évidemment, c'est faite pour amplifier le son du piano. Et du coup, ça répond assez, plutôt bien. Et ce qui est bon dans ce type de dispositif, donc piano avec transducteur, c'est que tout sort du piano. Mmh. Et donc, on peut créer des jeux vraiment d'ambiguïté entre le son du piano et les sons de l'électronique, ce que j'ai essayé de faire en début de pièce, où effectivement, quand on l'écoute en live, on ne sait pas bien ce qui est le jeu du pianiste, de la pianiste, et ce qui est l'électronique. Et voilà, et justement, là, dans ce cas-là, le titre qui dit quelque chose, Entrouvert, ça m'était venu à l'époque par la forme même du piano. Mmh. C'est-à-dire, c'est un instrument qui souvent est entrouvert, donc il y a cette directionnalité et qui laisse, c'est une caisse qui laisse, dans laquelle s'origine le son et se diffuse dans l'espace. Et là encore, il y a pour moi toujours cette idée de son comme quelque chose de tridimensionnel, de spatial, vraiment. Le piano, là aussi, c'est encore une fois un territoire, c'est encore une fois, il y a une géographie dans le piano et dans la façon dans laquelle le son se propage à partir de cet instrument. Donc, dans cette pièce, vraiment, on commence par des sons très petits et petit à petit, ça s'ouvre. Le piano, déjà, est un instrument qui a une puissance énorme, donc dans les graves peut être très très physique, et avec l'électronique ça devient encore plus diffusé à l'intérieur, ça devient une bête encore plus puissante.
Ok, et donc là c'est les deux pièces qu'on a écoutées, c'est des interprètes qui sont tout seuls même s'il y a de l'électronique, mais est-ce que des fois tu fais aussi appel à l'électronique live ou tu joues toi-même les parties électroniques, ou est-ce que c'est plutôt deux choses séparées pour toi?
Non, oui, souvent je participe, disons, au live en contrôlant l'électronique. Après, l'avantage d'avoir une électronique qui est indépendante, qui est écrite, qui est figée, c'est que ça peut se jouer sans moi, sans personne, donc c'est beaucoup plus simple. Mais j'aime être aussi actrice en partie, en toute petite partie de ce qui se passe sur la scène. Et j'ai fait des pièces de théâtre musical où carrément j'étais sur scène tout le temps à déclencher des choses, ou des concerts, ou en tout cas de pièces où je dois quand même contrôler les traitements en temps réel. Oui, c'est que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Bien évidemment, je préfère toujours être moi, avoir les contrôles.
Ok, et tu nous as beaucoup parlé d'espace aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'inspire beaucoup et qui est important dans ton travail. J'ai vu que tu avais travaillé au ZKM, donc de ce que j'ai compris, c'est un peu l'IRCAM de l'Allemagne, je ne suis pas sûre, sur les environnements sonores génératifs. Qu'est-ce que c'est que ça?
Est-ce
que
tu alors ça c'est une grosse parenthèse, hein, du coup, qu'on ouvre. Oui, l'espace est très important parce que la musique, le son, pour moi, c'est quelque chose, une expérience partagée. C'est une expérience, tout d'abord. Donc, il y a un côté que je considère presque rituel. Mm-hmm. Je vois presque un côté rituel dans le concert, dans le fait d'être tout convié à ce moment-là où il se passe quelque chose. Et donc, je conçois la musique pour être créée en live dans un espace. J'aime bien faire des pièces qui immersives, où le public peut se sentir enveloppé par le son. Et au ZKM, j'ai travaillé justement sur... je suis allée dans les cadres d'un projet, c'était un projet de recherche qui n'a pas abouti à des résultats artistiques lui-même, je pense parce que c'était trop tôt, mais qui m'a amené ailleurs. Donc j'ai créé une pièce qui s'appelle Fabrica, oui. à l'IRCAM à l'époque, qui se crée dans un... C'était toujours au moment de Covid. Oui. Et donc, pas de concert. Commande, pas de concert. Et du coup, on a créé avec Benjamin Lévy, qui était RIM à l'IRCAM de l'époque, un environnement virtuel 3D. Donc, un site qui fonctionne un peu comme un jeu vidéo, qui est toujours en ligne.
Okay.
Et dans lequel on rentre, il y a deux sons placés. On peut naviguer cet espace comme dans un jeu vidéo. Et il y a des sons et une géographie, là aussi, qu'on peut explorer. Il y a des parcours qui sont pensés. On a travaillé avec un artiste visuel digital, justement, qui a créé toute l'interface visuelle, qui s'appelle Kesson Dalef. Giovanni Muzzo, bref, qui a fait l'interface visuelle. Et du coup, on a créé cet espace-là et j'en ai fait aussi une version live, c'est-à-dire que cet espace est projeté sur un écran et il y a un ensemble qui joue en temps réel et interagit avec cet okay. espace. Bon, la pièce est créée une seule fois parce que c'est toujours compliqué de faire tourner ce type de projet. Mais au ZKM, après, dans le cadre de cette recherche, du coup, j'avais fait une pièce pour le Cubus, la salle de ZKM, qui a un ambisonique à trois ordres. Ou quatre, je ne me souviens plus. En tout cas, beaucoup de haut-parleurs.
Okay.
Et 42, je pense que j'avais utilisé 42 haut-parleurs. Et là aussi, c'était incroyable parce que son voyage dans ouais. tous les sens. Cette pièce s'appelle Poetica Liquida. Et justement, c'est une pièce acousmatique. Donc, c'est que de l'électronique.
Ok. Ok. Et ben, on va maintenant passer à la chronique surprise de Michael.
Toujours surprise.
À toi l'antenne.
Merci. Oui, c'est bizarre de prendre comme ça l'antenne. Donc moi, je vais vous parler... Alors, on change de sujet. Après, on bascule, on relance les dés. Moi, je vais vous parler du cringe, du chaos, de la dévastation. Non, je ne vais pas vous parler d'une œuvre novatrice où un poulpe géant s'effondre sur un orchestre tout entier ou d'un piano jeté du dessus de la tour Montparnasse. Non, la dévastation, on la retrouve où ? On a la réponse. Dans la communication de la musique contemporaine / classique. Là, c'est le drame. À chaque fois que j'ouvre Instagram, un dôme de chaleur arrive dans mon esprit. J'entends les chefs présenter les œuvres, tous et toutes avec le même ton, les journalistes faire des rapprochements stupéfiants avec des sujets hors normes tels que Squid Game. On va y arriver bientôt. Ils ont tous exactement le même format d'image. Ils tous un langage un peu aguicheur, à la limite du langage universitaire, mais pour rester sérieux, mais ouvert, avec une attitude pointue et décalée. Et merde, on en revient à cette émission. mes amis.es, l'heure est grave, découvrons ensemble tout ça. Donc le premier extrait, alors j'ai donné quelques noms, mais c'est pas pour vous accabler, c'est juste pour rire un peu avec vous. Donc le premier extrait, donc Simon Proust avec l'ensemble intercontemporain.
En premier lieu, la science et l'astrophysique. Le compositeur catalan rencontre des personnalités de ce milieu, comme l'américaine Lisa Rendall, au milieu des années 2000, ce qui aboutira à Hyper Music Prologue, opéra de chambre pour deux voix, huit instrumentistes et électronique. En 2011, il compose Caressant l'horizon.
Vas-y, on coupe. Enfin, je sais pas trop si vous voyez vraiment où je veux en venir, mais on va voir avec les autres extraits. C'est vraiment toujours un peu le même ton, le même langage. Et alors, je sais pas trop comment ça se fait. Est-ce que c'est des gens qui découvrent Instagram ou TikTok, etc. Et puis en fait, qui se disent « Ah bah ouais, il faut que ce soit vendeur, il faut vraiment faire venir du monde. Et du coup, il faut que je me mette en scène bizarrement. » Et du coup, ils ont toutes et tous la même mise en scène. Ou est-ce que c'est vraiment une façon d'être ? Mais alors, le connaissant, monsieur Proust, sachant comme il dirige, en fait, c'est pas du tout... C'est bizarre. Tout le monde s'invente une vie sur Instagram, en tout cas. Passons au suivant, donc, et pas des moindres, France Musique. Alors, écoutons ça.
AIM est d'ores et déjà le plus gros succès d'une célèbre plateforme de streaming. Et pourquoi je vous parle
on
de ça?
On entend le rapprochement.
Parce que c'est une bonne nouvelle.
Un peu aléatoire.
Et notamment pour la musique classique.
Toujours
oui,
avec le même ton.
Dans Squid Game, la musique classique n'a aucune empathie avec l'image. Elle est au contraire anempathique.
Enfin bref, on va couper aussi. Vous voyez, c'est encore une fois le même ton. Enfin, je sais pas si... Vous voyez un peu où je veux en venir ou pas?
Doucement.
Doucement, mais sûrement. Du coup, c'est un peu la recette. C'est prendre des rêves totalement aléatoires, mettre tout ensemble et finalement expliquer une pièce totalement obscure. C'est un peu ça, cette recette. Et alors là, on va écouter un troisième extrait. Donc du chef d'orchestre de l'orchestre Orphéon. Et alors lui, il a un peu perdu la foi.
De la création de cet orchestre, il y a l'envie de créer un orchestre qui nous ressemble en intégrant du répertoire assez peu joué et des œuvres de compositrices et en donnant l'opportunité à de
jeunes. Et donc, il a un peu perdu la foi, on l'entend un peu à son ton, il est un peu moins enjoué que les autres. Et quand il dit quand même, on a envie de créer un orchestre qui nous ressemble, heureusement quand même que vous créez un orchestre qui vous ressemble. Enfin, je sais pas, un orchestre qui se ressemble pas, ce serait quoi, tu sais, genre, par exemple, l'orchestre national de France qui joue du Rammstein. Enfin, je sais pas. Là, j'avoue, ça le ressemblerait pas, mais c'est un peu. Enfin voilà, c'est genre prendre des termes et puis les balancer comme ça. C'est comme ça que ça se fait la com de la musique classique sur Instagram. Bref, étant donné que toute la com de la musique se fait sur le même ton et dans le même format, je vais essayer de faire celui d'Absence en direct.
Ouais.
Alors attention. Absence, c'est un peu la fusion entre art contemporain et musique contemporaine. À la croisée des chemins entre nouveau et répertoire du XXe siècle, ce que nous pouvons découvrir avec Absence, c'est un méli-mélo de musique... Quel enfer ! Ça y est, j'ai vomi. Bref, c'est un peu un appel à l'aide, un appel lancé dans l'océan, je sais pas... essayons, amis musiciens, musiciennes, journalistes et autres, essayons d'arrêter d'avoir l'air de premier de la classe. On est les derniers et loin derrière et soyons-en fiers.
Voilà. Bravo.
Numéro 2.
Un peu dur avec les ensembles, les musiques contemporaines, mais ils s'en remettront.
Oui, je sais.
Et sans transition, on va passer à l'écoute de la troisième pièce de Giulia Lorusso. Qui est donc un extrait d'après Weightless pour quatuor à cordée électronique, interprété par le Quatuor Tana, dont la com n'est pas cringe, on vous l'assure, et composé en 2022-2023. C'était donc un extrait de Weightless de Julia LoRusso. Pourquoi tu raccordes électronique ? Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette pièce ?
Oui, c'est une pièce. Là, pour le coup, c'est une longue pièce pour mes standards. C'est-à-dire, c'est une pièce de 25 minutes à la base, dont on a écouté un extrait. La deuxième partie, la partie finale, on vient d'écouter. Et donc, il se passe. Plusieurs choses, mais l'idée ici, c'était vraiment de travailler et sous l'espace, parce que cette électronique est spatialisée, encore une fois, dans la salle, et sous la consistance du son, dont l'idée, le titre, Weightless. L'équateur et l'électronique, surtout dans cette pièce, c'est plutôt volatile. C'est vraiment quelque chose qui se propage et qui après retombe, surtout sur le final qu'on a écouté, sur des sons graves et qui rebondissent. Donc c'était cette idée-là qui m'a inspirée, qui m'a permis d'explorer, c'est encore une fois cet effectif en quatuor à cordes où on a quatre instruments, mais dont le timbre est cohérent. Ces quatre instruments à cordes, on est encore une fois sur quelque chose qui se rapproche un peu d'un instrument solo et donc qu'on peut explorer avec une propre géographie qu'on peut explorer encore une fois.
Mmh. Ok. Et j'ai vu que pour Quatuor à cordes, tu avais aussi créé une autre pièce avec une marionnettiste. Tu as aussi travaillé sur une installation, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, travaillé avec des plasticiens. Comment tu envisages l'interaction entre la musique, entre le théâtre? Tu as fait du théâtre musical aussi. Comment ça te parle? Comment ça t'inspire?
J'aime beaucoup travailler en équipe. Ouais. J'aime beaucoup travailler avec d'autres acteurs, des artistes qui viennent d'autres disciplines et aussi changer, si tu veux, la posture et le rôle de la musique. Mmh. C'est-à-dire adapter la musique à des contextes différents. Là, par exemple, à l'avenir, je travaille sur une pièce pour les jeunes publics,
ouais,
avec une artiste visuelle, plasticienne, qui s'appelle Capitolina Tchetkova, pardon, et avec un Natsu Miroir, un ensemble strasbourgeois. Et là, encore une fois, c'est un contexte complètement différent. Dans le Corpo Unico, cette pièce pour quatuor à cordes, marionnettiste, danseuse, où le quatuor à cordes n'a pas de pupitre, parce qu'ils sont sur scène, ils doivent agir, donc il faut composer une musique qui soit suffisamment flexible, qui puisse apprendre par cœur ou qui soit une partition qui soit ouverte à l'improvisation. Et donc ça change complètement la façon de concevoir la musique et l'organisation de la musique et du son. Et effectivement, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup et que je trouve intéressant et aussi fondamental, nécessaire pour faire vivre la musique de recherche que nous faisons, enfin la musique dite contemporaine, comme vous voulez, savante, utilisez les mots que vous voulez, mais elle doit vivre aussi dans des contextes différents.
Mmh. Et oui, j'ai vu aussi que le rôle du public était souvent repensé un peu avec des... Donc tu parlais d'une œuvre... avec un environnement virtuel où l'auditeur peut faire ses choix, aussi, donc Fabrica, et aussi une pièce où le public se déplace, Invitation to How It's Done.
Oui.
Comment tu réussis à repenser cette interaction entre public et entre musique, musicien, compositeur?
Ça fait partie de la composition, c'est-à-dire ça rentre vraiment dans les projets de la pièce de départ. C'est dans le cas de Invitation to How It's Done, qui est déjà une pièce collective écrite à six mains, avec une électronique qui est diffusée par des casques à conduction osseuse, les casques qu'on utilise pour aller en vélo. Donc, c'est tout un dispositif déjà très bizarre au départ. Et c'est pensé comme une exploration d'un espace, cette fois-ci, réel. Donc c'était deux lieux, deux étages où les musiciens sont éparpillés, mais on écoute tout en même temps parce qu'on a ces casques-là. Donc ça fait partie de la pièce elle-même. Ça naît, cette idée, avec... C'est les centres de la pièce. Mmh. Et même pour des projets futurs que j'ai... Là, je vais travailler sur un projet auquel je tiens beaucoup, qui est un peu ambitieux pour moi, enfin pour mes standards, pour l'ensemble vocal. Et là aussi, encore une fois, c'est presque ça être spécifique. Le fait d'avoir la voix, les musiciens qui peuvent, les chanteurs qui peuvent bouger, qui peuvent utiliser leur corps, l'espace, la lumière, le noir, voilà, plein de choses. Et tout ça, ça rentre, ça fait partie de la musique. En fait, la musique, au final, n'est pas faite que de son.
Oui.
On pourrait dire ça. Et des silences. Son silence et beaucoup d'autres choses.
Ok, génial. On arrive doucement vers la fin de l'émission. Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Est-ce que tu as des projets?
Oui, on peut me retrouver en ligne, bien sûr, sur le site ou SoundCloud, etc. Et aussi, sinon, à partir de septembre, je serai à Rome pour un an. Je pense que je voyagerai beaucoup aussi sur Paris et entre Strasbourg et Bordeaux, où je mène des projets avec justement Strasbourg, en Natsu Miroir et à Bordeaux, Proxima Centauri, qui est un ensemble de musique contemporaine. Vas-y.
Ok, bah, génial. Merci beaucoup, Julia, pour... pour ta participation à l'émission.
Ravie d'être ici.
Merci Mickaël pour ta chronique hautement polémique.
pas tant que ça.
Et merci beaucoup à Marie-Lou et à Ange pour la réalisation. C'était la dernière émission absence de la saison. On se retrouve en septembre pour une nouvelle saison toute pimpante et pleine d'enthousiasme. Mickaël et moi, on présentera une émission sur deux et on fera des chroniques toujours aussi palpitantes. Thank you.